Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4 en direct des studios. Comme vous le savez, n'oubliez pas de télécharger la souscription afin de nous aider pour maintenir cette radio de qualité. On a besoin de matériel. Et puis, vous pouvez consulter évidemment l'agenda sur lequel l'ensemble des émissions sont programmées. N'oubliez pas que le podcast est disponible à partir de la fin de la diffusion pendant 12 mois. N'oubliez pas que vous pouvez également les enregistrer, dont certaines émissions deviendront des collectors un jour. Vous avez la possibilité de réécouter donc les émissions. Et vous pouvez consulter ma page Facebook Yves Jazz Libre sur lequel je mets après le lendemain ou quelquefois le surlendemain en fonction de mes disponibilités l'ensemble de la playlist, les pochettes des albums, le lien et puis de temps en temps sur ma page Insta mais très rarement. Ce soir, Franck à la technique qui nous fait le plaisir de nous travailler avec nous sur cette émission qui est la plus géniale du PAF. Et nous avons le plaisir de recevoir notre ami habitué des studios, Alain Sève, qui non seulement est habitué des studios, mais qui est un ami, donc voilà. Et on avait, vous savez, il y a fort longtemps, quelques années, décidé que nous ferions une émission par an consacrée à Roland Kirk, et puis on n'a pas tenu notre promesse pour diverses raisons, mais on se voit quand même régulièrement pour en parler. Et là, il se trouve que Zeffelmann, béni soit-il, je suis désolé d'employer un terme religieux, mais sans lui, on serait non pas orphelin, c'est pas le cas, mais il a, on l'appelle un peu le globe-trotteur du jazz. Il va autour du monde et il retrouve un certain nombre de bandes oubliées avec des choses absolument sublimes. Donc il nous a retrouvé plein de Bill Evans, il nous a retrouvé du Fats Domino Lewis, du Wes Montgomery, du Larry Young, enfin de tout. Et là, il vient de ressortir coup sur coup deux albums de Roland Kirk, un au Village Gate en 1963 et un autre au Penthouse en 1967. Et donc, nous allons... Alors, pour l'anecdote, j'ai écouté ces albums d'une oreille distraite, je vous le dis, pour ne pas, influencer mon point de vue et pour découvrir ensemble, je dirais, ces enregistrements. Petite parenthèse, la première, c'est que d'un point de vue purement sonore, ne vous attendez pas à une qualité extrême. Parce que l'enregistrement n'a pas été fait forcément dans les meilleures conditions, c'était un enregistrement live, mais peu importe, c'est un document exceptionnel, et je vais vous dire pourquoi, et après je vais passer la parole à Alain. Parce que s'il y a bien un musicien pour lequel le travail, son expression et son, je dirais presque même sa folie s'exprime en public, c'est bien Roland Kirk. Et pour l'avoir vu moi sur scène, je peux vous dire que 50 ans après, je ne m'en suis toujours pas remis. Et ça reste un de mes plus grands souvenirs musicaux de toute ma vie de cette musique. Et donc, moi, je vous propose donc 2h30 ou presque sur ces deux albums qui sont exceptionnels dans leur arrivée comme ça, comme un peu une météorite, et qui nous donne un instant T de ce que Roland Kirk a pu produire sur scène tout au long de sa vie, et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. Voilà. Merci Alain d'être parmi nous, et pas de miaulement s'il vous plaît, dans nos studios, pour parler de Roland Kirk, car je sais que c'est ton ou un de tes jazzmen préférés.
Alors, plusieurs points déjà. La qualité de l'enregistrement, en fait, n'a pas tellement d'importance, dans la mesure où la qualité de l'enregistrement, c'est des documents. Et ça, c'est à mon avis, le seul intérêt de la musique enregistrée, c'est le caractère documentaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des rappels de mémoire, et ça ne remplace pas le vivant. Et c'est d'autant plus vrai que Roland Kirk est un musicien du vivant, et que c'est vrai que c'est pas un musicien de studio dans lequel, où en fait, il y a des gens qui créent un studio, c'est pas du tout, du tout son, son projet. Premier point. Deuxièmement, je suis très heureux d'être ici parce qu'en plus, je vais le découvrir, ces documents avec toi. Et Roland Kirk a une place un peu à part dans, dans ma mémoire et dans mon affect, parce que c'est quand même une, un personnage assez atypique. Tant par l'individu lui-même, la personnalité lui-même, et puis évidemment ses qualités musicales.
Est-ce que tu as lu la biographie de son biographe, qui d'ailleurs est dans le... John Crute, où il raconte un certain nombre de, d'anecdotes assez étonnantes du type il avait une telle comment dire conscience de sa musique et une telle intensité qu'il supportait pas que les gens bavardent en concert et qu'il était capable de descendre sur scène et d'aller foutre une baffe à un mec qui était en train de parler en disant si... Et c'est incroyable, et ça dit tout, alors que bon, évidemment, il faut dire aux auditeurs qui ne connaîtraient pas, qui découvriraient ce soir Roland Kirk, qu'il était aveugle.
Alors, déjà, sur la prouesse de quitter la scène, le stage, pour aller mettre une claque à la personne qui parle dans l'assistance, c'est déjà un exploit. Mais nonobstant, il est vrai que les jazzmen et les musiciens autres que les musiciens de concert en salle classique, etc., ça existe aussi. Et quand on est en club, etc., on a toujours ce genre de problème entre les bruits de verre, que dans les restaurants, c'est les bruits de fourchette. Tous les musiciens de jazz connaissent ça, et en fait, c'est assez insupportable.
C'est insupportable.
L'avantage, c'est que dans la musique, j'aime pas dire classique, mais dans la musique que je pratique, musique contemporaine, musique quand on joue du Brahms, tout le monde se tait par définition, donc il y a déjà une forme d'éducation. Et c'est vrai que généralement, s'il y a quelqu'un qui se met à parler pendant qu'on fait une sonate de Brahms, généralement, c'est le public qui lui met une claque. Donc, on n'a pas à se manifester. Par contre, les situations de concert pour les jazzmen, et ça, je le dis toujours, c'est depuis très longtemps, ça nécessiterait de temps en temps. Maintenant, c'est moins le cas. Il faut quand même reconnaître que la plupart du temps, les gens sont plus respectueux. Mais le cadre souvent ne prête pas à... Il faut faire de la pédagogie, quoi.
Hein? Oui, parce que...
Parce que la musique, ça se respecte, ça s'écoute.
Exactement.
Voilà. Et donc, puis... il faut être discret. C'est normal.
Oui, puis je vois pas pourquoi on serait dans une salle où on bouffe et on boit. Un concert classique, on bouffe pas et on boit pas.
Alors, absolument pas. Sauf à Bayreuth, où il arrive que les gens... parce que c'est très long, grignote un peu, mais ça fait pas de bruit.
Alors, je voudrais souligner le travail formidable de Zeffelmann, qui, comme d'habitude, retrouve les musiciens souvent qui ont joué, ou s'il n'a pas retrouvé les musiciens, il retrouve des gens qui les ont connus et ils les interviewent. Et donc, vous avez toujours un livret extrêmement documenté avec... Et je trouve ça assez, assez fantastique. Alors, nous allons donc commencer... On n'aura peut-être pas le temps de tout écouter, hein, malheureusement. Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que dans cet album, donc ça a été enregistré les 26 et 27 novembre 1963 au village Gate à New York, et il y a plusieurs pianistes qui vont se succéder en fonction des morceaux. Il y a Horace Parlan, Melvin Rhine. Alors Melvin Rhine, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est l'organiste qui a beaucoup joué avec Wes Montgomery, mais là il joue du piano. En général, le clavier est le même, donc ça peut toujours marcher, hein, je peux vous en parler.
Sauf pour les pieds.
Mais bon, bon, il y a aussi des pédales sur le piano. Mais
bon, enfin bon, c'est pas chromatique. Oui.
Jane Getz également, qui n'a rien à voir avec Stan. Et il y a Henry Grimes à la contrebasse et Sonny Brown à la batterie. Et donc, évidemment, Roland Kirk nous joue tout un tas de bazar, et Alain nous expliquera évidemment tout ce qui... tous les instruments dont il joue. Donc il joue du ténor, du stridge, du manzello, de la flûte, il chante également, il a des sifflets, des sirènes et tout un tas de bazar. Et même il avait, je me souviens à Montreux, quand je l'ai vu, il avait une boîte à meumeux aussi, puis des mini-cassettes, enfin bon, il y avait plein de choses. Donc on va commencer tout de suite par un titre qui s'appelle Jump Up and Down, petit tiret, fast. Et c'est parti.
So we're going to show this evening, we are very proud to present Mr. Roland Kirk. We'll be right back.
Jazz Libre Radio Libertaire 89.4. Donc, je reprends pour ceux qui prendraient en route. Il s'agissait de Jump Up and Down, petit tiret fast, avec donc Roland Kirk qui jouait tout un tas de choses, dont Alain va nous parler dans un instant. Horace Parlant au piano, Henry Grimes à la basse et Sonny Brown à la batterie. Alors, juste avant de donner la parole à Alain pour sa première impression, il faut juste dire quand même que ce concert est enregistré 2 ou 3 jours après l'assassinat de Kennedy. Et donc il y avait quand même une certaine atmosphère relativement lourde où tout le monde était figé à son écran pour voir l'enterrement de... Voilà, donc c'est juste après. C'est pour dire que... Pour situer le contexte politique de ce concert. Donc, je te passe la parole, Alain. Donc, Alain Sève, brillant musicien, musique classique contemporaine et jazz, fut un temps professeur, etc., pédagogue, tout ça. Alors, dis-nous tout.
Première impression. Ce n'est qu'une impression, mais... dans ce morceau-là, hein, dans cette prestation-là,
yes.
Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il a la faculté de passer de... Comment dirais-je, de style, de forme, de domaine sonore, à très très vite. On a l'impression que les idées s'enchaînent et qu'il les prend au vol. Et des fois, il les sollicite. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que, j'ai un peu cette impression-là, c'est que les phrases de Bob sont pour lui un confort qui lui permet d'envisager comment il va tordre la situation après. Et ce qui est intéressant, c'est que on a des phrases de Bob, mais hyper belles, hyper agiles et tout. Et puis brusquement, il change. Il y a une bascule et il va. Les formules vont changer complètement. On est dans un autre style, on est dans un autre mode sonore. Puis tout d'un coup, il y a avec plusieurs instruments, c'est-à-dire qu'il joue 2 instruments en même temps. Il fait des citations. Il fait des formules très conventionnelles mais ça lui permet toujours à chaque fois de faire le lien. On a l'impression que c'est un gros gâteau à plein de couches. Et que entre chaque couche, il y a un peu de crème pour faire le lien entre les couches, et que toutes ces couches sont autonomes. Elles ont leur spécificité. Tout d'un coup, il y a des multiphoniques. Ce qui est pour ça qu'on a souvent, au départ, Roland Kirk a été associé beaucoup au free jazz, et il a une démarche qui est une démarche de free jazzman, c'est vrai. Mais en même temps, il garde une structure qui est très très. Il a une structure dans la tête, il la suit. Il me fait penser aussi à l'Art Ensemble of Chicago, j'en parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que il cherche la sollicitation, il y répond. En contrepartie, ça doit être très très difficile pour les autres musiciens de jouer avec lui, parce que pour jouer à ce jeu-là, de changer de carte en permanence. Si on veut rester dans le même discours, dans le même forme de discours qui peut paraître décousu, mais qui en fait est donc un patchwork mais construit, ça doit être assez compliqué. Et parce qu'il faut suivre les idées, quoi. En fait, c'est quelqu'un que on n'écoute pas la musique, on suit son discours. C'est-à-dire que on peut pas rester dans l'ambiance. J'écoute. C'est un peu pareil avec toutes les musiques un peu radicales, de décaphoniques, contemporaines, etc. On peut pas passer l'aspirateur en même temps. On est obligé de suivre le discours. Et donc, on est obligé de suivre ce qu'il dit. Et il change de grammaire et de langue. Donc, ça nécessite une grande attention.
Alors, moi, il y a une chose aussi que je trouve, et depuis ses premiers enregistrements, il y a quelque chose que je trouve fascinant d'une certaine manière, qu'on n'a pas forcément chez les autres musiciens, mais c'est qu'il a un style affirmé dès le début et qu'il va maintenir et constamment jusqu'à la fin de sa vie. Je prends l'exemple de Bill Evans quand il joue avec Miles sur le Kind of Blue. Il est plutôt introverti, il fait des voicings. Bon. Après, il y a le trio Village en Garde avec avec Lafaro, et puis petit à petit, il va, mais ça va prendre du temps jusqu'à sa mort, évoluer avec plus en plus de virtuosité. Il va modifier, il y a à mon avis le concert de 1971 au Japon qui était un peu une rupture, mais bon, pour ceux qui connaissent. Alors que Roland Kirk, dès le début, il est, c'est monstrueux quoi.
Bah, il fait partie des musiciens et compositeurs qui on dirait qu'ils sont nés avec une idée de la musique. Ils ont un langage. Il y a un exemple qui est assez étonnant. C'est Francis Poulenc. Il a écrit une pièce pour deux clarinettes à 18 ans et elle sonne comme sa sonate pour clarinette qui sera une de ses dernières sonates puisqu'elle date de 63 et qu'il est mort en 63. Il a pas changé de langage. Il a fleurit son langage, développer son langage, mais le son qu'il a, sa couleur, la couleur de Poulenc reste la couleur de Poulenc. On reconnaît sa couleur fatalement. C'est pas le seul compositeur, mais ce qui est intéressant, c'est que dès 18 ans, il a cette couleur. Et c'est intéressant d'écouter justement le duo pour clarinette et puis ensuite la sonate et puis César. On s'aperçoit qu'il a instinctivement un paysage sonore et qu'il l'exploite dès le début. Roland Kirk a un petit peu aussi cette réalité-là. Il a un paysage sonore qui lui est propre, comme tout musicien. Hein, tout musicien a un paysage. Mais il l'a découvert très tôt. Et il en a découvert aussi une forme de liberté. Est-ce que c'est une liberté qu'il a trouvée en partie pour compenser son absence de vision puisqu'il était aveugle? C'est possible. Puisque, en fait, je pense que la cécité pousse d'une certaine manière à une forme d'introversion. On a toujours un regard, mais il est plutôt tourné vers soi-même, vers l'intérieur de soi, que vers l'extérieur, et on doit répondre à l'extérieur. Lui, en plus, il est dans le domaine sonore, évidemment. Mais je pense que il a découvert ce monde. C'est une compétence, voilà. Il est né avec ça et il l'a développé. On peut justifier, peut-être que sa cécité n'a pas de cause, mais on peut le penser, en tout cas on peut penser que c'est quelqu'un qui s'est construit très vite.
Parle-nous aussi de sa lutherie, parce que là bon, on a entendu plein de trucs.
Je replace toujours la position de Roland Kirk par rapport à l'évolution de la compréhension du son. Faut pas oublier que on est dans une période dans les années 60, 70, où d'un côté il y a le free jazz, de l'autre côté il y a la musique contemporaine, et il y a l'apparition de l'acoustique, c'est-à-dire que le son, la note n'est plus une note mais un bruit, c'est-à-dire qu'on revient à l'essence même de la musique, c'est-à-dire qu'on commence à retravailler la matière du son. À la hauteur des sculptures ou des peintures qu'on dit non figuratives, mais on en arrive à cette règle et à ces nouvelles règles. Et je pense que la dimension musicale de Roland Kirk et de ses sonorités viennent de là aussi. Ce qui fait que il a eu besoin d'une nouvelle lutherie pour pouvoir obtenir ce qu'il cherchait. Pour avoir l'idée de jouer de plusieurs instruments ensemble, c'est qu'on a forcément une idée sonore, parce que on n'a pas c'est pas un son habituel. Quand il fait un multiphonique au ténor, quand il fait des multiphoniques avec son ténor, et on connaît bien les doigtés, mais ça donne une sonorité tout à fait particulière. Donc il les a trouvés par lui-même en plus, hein, puisque maintenant ça s'enseigne, mais à l'époque ça se découvrait, c'était. On n'était pas encore dans la pédagogie de ce genre de technique. Par contre, cette technique est apparue et on a eu besoin de ces nouvelles sonorités dans énormément de domaines musicaux, dont le jazz. Et là, on se retrouve dans des approches de la sonorité qui nécessitent du matériel. Et ce matériel, les compositeurs l'ont trouvé avec l'électronique, l'électroacoustique, avec toutes les composantes, les bandes magnétiques, l'enregistrement, réutiliser les bruits de la rue, faut pas oublier les paysages sonores. On avait enregistré sur 24 heures tout un village, on a 5 villages en fait, dans le village de Lesconil, et donc de 0 heure à minuit, et donc après, on coupait les bandes, on assemblait, et on avait en une heure, 24 heures de la vie de la ville, en son. Bon, toutes ces recherches, toutes ces études, tous ces, je dirais, ces délires aussi, hein, mais ce qui n'est pas délire, c'est dans le bon sens du terme, ça pousse à faire quelque chose. Donc je pense qu'il a eu besoin de cette lutherie. Il s'est dit, tenir un soprano tout droit alors qu'on joue du ténor, on peut y arriver en posant le soprano sur le pupitre qui est en face, mais sinon c'est problématique. Donc il a eu besoin d'un soprano courbé, ça existait. Mais après, il a eu besoin d'un soprano courbé avec le pavillon courbé, qui existait déjà, puisque le saxophone soprano, qui a une forme de petit alto, les clowns l'utilisaient, puisqu'on avait l'impression que c'était un jouet. Et lui, il a recherché ça. Ça ne change pas énormément, ça ne change pas la sonorité. Mais quand on fait un instrument, un saxophone en do, par exemple, eh ben, ça ne sonne pas du tout pareil qu'un saxophone en si bémol, en fait. Pas si différent, mais quand même. Et pour ces différents, le Stritch, le Manzello, y a un côté pratique qui lui permettait d'avoir cette lutherie autour du cou, puisqu'ils n'avaient pas la forme attendue. Hein. Donc c'était plus facile à tenir, un saxophone alto tout droit, avec quand même son bocal courbé, mais permettait de l'avoir facilement après soi, et puis il bouge pas. Tenir un saxophone d'une seule main dans sa forme normale, on s'aperçoit que c'est parce que le pavillon est vers l'avant, c'est déséquilibré. Lui, il avait un instrument équilibré, puisqu'en fait, c'était un tube tout droit qui allait par gravité d'une manière verticale, donc il était stable. Donc en fait, il y a toute cette lutherie qu'il a développée, mais qui sont des raisons technologiques, techniques, de la même manière qu'on a développé le synthétiseur pour l'électroacoustique, pour plein de choses, qu'on a fait des recherches et tout. C'est du même ordre. Et il est dans ce courant musical qui a recouvert pas mal de musique, et beaucoup la musique contemporaine, évidemment. C'est aussi la raison pour laquelle beaucoup de jazzmen ont été sollicités pour jouer des pièces de musique contemporaine, parce que les multiphoniques, ils les pratiquaient, parce que le slap, ils pratiquaient, parce qu'il y avait plein de pratiques qui maintenant font partie du paysage et du matériel pédagogique et qu'on utilise à plus soif, mais qui n'étaient pas encore en usage. Et je pense que ce besoin de lutherie moderne, c'était un besoin personnel pour des besoins techniques, pour pas avoir le saxophone qui part d'un côté, l'autre de l'autre, etc., des problèmes d'équilibre. Et quand il fait une flûte nasale pour pouvoir avoir une flûte qu'on utilise par le nez en même temps qu'on fait, comme il aimait les blocs sonores, il aimait. Et le problème de l'instrumentiste avant, c'est que la plupart du temps il fait qu'une seule note. Il peut jouer sur la couleur de la note, sur la forme de la note, mais il n'a pas cette masse, à moins de travailler les multiphoniques, à moins de chanter dans l'instrument en même temps, ce qu'il fait aussi.
Oui, ce qu'il fait aussi.
Et tu n'as pas cette variété de couleurs. Il faut la. Et là, comme il y répond en jouant de trois instruments en même temps, parce qu'il y en a un qui est en bourdon au milieu et les deux autres qu'il utilise concurrentiellement avec. Toujours que dans le haut de l'instrument, puisque la main droite et la main gauche, c'est la partie supérieure de l'instrument qui permet de le faire, évidemment. Et donc, je pense que sa démarche est, pour répondre à un besoin de sonorité, un acquis technique supplémentaire, un besoin technique supplémentaire. Sa lutherie, elle vient de là.
Ok, c'est intéressant parce que on a d'autres instrumentistes qui ont joué plusieurs instruments en même temps, comme Portal, qui a disparu il n'y a pas longtemps, mais qui utilisait une lutherie traditionnelle.
Tout à fait conventionnelle. Mais moi, j'ai joué une pièce de François Busch qui s'appelle Sirène, où à un moment donné, je joue avec le corps du bas de la clarinette basse. Mais que le corps du bas, c'est-à-dire que j'ai le bec de la clarinette normal, qui se met sur le corps du bas. Le problème, c'est que le corps du bas est un peu plus évasé. Il a fallu que je bricole un deuxième bec que je puisse mettre dedans pour la mettre en place. Mais ça donne une sonorité tout à fait étonnante. On a un son, comment dirais-je, de musique traditionnelle d'un pays lointain, etc. Mais c'est l'effet est extraordinaire. L'effet est super. Hein, c'est une très belle musique. Et ça donne une mélopée. Donc, c'est vrai que dans le cas présent, il faut toujours un peu bidouiller. Hein. L'avantage, par exemple, il y avait une pièce de musique contemporaine qui a joué Portal, où il jouait de deux instruments, c'est-à-dire le parti haut de la clarinette sans le corps du bas, et le corps du bas, et donc il avait deux becs, un dans le corps du bas et un dans le corps du haut. Mais là, ça va, on peut mettre ça tient, il n'y a pas de bidouille. Mais comme c'est relativement peu lourd, on peut le garder, on peut le faire. Hein, c'est pas très, mais c'est faisable. En plus, on peut avoir un cordon, on peut se débrouiller pour tenir l'instrument. Mais c'est pas à la hauteur des nécessités de ce que fait Roland Kirk, puisque Roland Kirk, il se met à faire du trois voix à la Bach avec trois saxophones, comme on l'a vu dans Bright Moments. Et c'est en public, donc c'est vraiment encore un exemple où c'est pas du tout un musicien de studio que le studio, le studio va pas lui donner superbement d'idées ou etc. C'est pas, il y a les musiciens qui sont des musiciens de studio. En classique, il y a Glenn Gould. À la fin, il pouvait plus faire de concerts, il ne pouvait qu'enregistrer des disques. C'est un peut-être problème psychologique, mais n'empêche que c'était ça. C'est pas le cas du tout de Roland Kirk. Mmh. Le studio n'a aucun intérêt pour Roland Kirk.
Oui, c'est ce que je dis. Je pense que
c'est pas son truc. Il y a vraiment des musiciens, c'est leur truc, c'est vrai. Et pourquoi pas? C'est pas une question de valeur. Hein. Mais c'est pas son domaine. Il est pas dans son. C'est le poisson n'est pas dans le bon bocal.
Et je sais plus que oui. Si il y a une question pour nos auditeurs qui savent pas forcément ce que c'est qu'un bourdon, hormis l'insecte.
Un bourdon. C'est ce qu'avait dit un de mes élèves quand il passait le bac. Le bourdon, le copain de l'abeille. Il a eu une moyenne, 10 de moyenne, parce qu'il a fait rire un des profs à l'examen et l'autre pas du tout, mais il a quand même réussi à. Bon, mais le bourdon, en fait, c'est une note tenue qui rappelle généralement une fondamentale dans l'harmonie, et tout marche autour de cette fondamentale.
Comme dans la cornemuse.
Absolument, puisqu'il y a au moins une des pipes qui est en bourdon.
Et là, d'ailleurs, dans l'exemple qu'on a entendu, il fait un petit ce côté un peu.
N'oublions pas qu'il y a une très belle pièce de cornemuse en jazz avec Rufus Harley.
Rufus Harley.
Et avec Sonny Rollins.
Et avec Sonny Rollins. Tu vois. Absolument. Donc on va passer le deuxième morceau qui s'appelle Ecclusiastics. Et puis on écoute et puis on va voir. Voilà, c'est parti.
Thank you. making you sweat. You don't never fret.
Jazz Libre, Radio Libertaire 89.4. Alors là, donc il s'agissait du thème Ecclesiastics, toujours avec Horace Parlant. Et donc c'est intéressant aussi parce que on voit qu'il utilise sa voix aussi comme un
instrument.
C'est-à-dire
que le titre, ça devrait être plutôt sarcastique. Et qu'il y a, comment dirais-je, il y a un côté toujours festif, il y a un côté toujours pas moquerie, c'est pas de la moquerie, mais il a un sens de l'humour, il aime jouer avec les choses. Et là, il fait du blues plus que caricatural, il va à fond dedans, il le fait avec tout son cœur, il y a pas de problème. Et mais en même temps, il chante, il commente, donc ça a aussi une portée littéraire. On oublie que Roland Kirk a aussi une portée politique, en fait, quelque part. Mmh. Parce que, ça se verra un peu plus tard encore, puisqu'il y a des formes de revendication, il y a des formes de dénonciation, il y a plein de choses, quand même.
On pense à Black Nuss,
absolument,
notamment, BLSIK et USS.
Ouais. Mmh. Et donc, il a un discours. Il a un discours pas que musical, il a un discours total, quoi. Il aime discourir. C'est un orateur. C'est un orateur de la musique.
Et tu peux nous dire un petit mot sur la technique du souffle continu?
Alors le souffle continu, oui,
il utilise.
Oui, bien sûr.
Bon, il l'a pas utilisé, mais dans le précédent,
il l'a utilisé,
qui est très impressionnant.
Ouais, techniquement, les premiers à l'avoir utilisé, c'est les musiques traditionnelles du Moyen-Orient,
oui,
et de l'Asie. Quand on a un enfant et qu'on envisage de lui faire de la musique, et notamment un instrument avant, et donc il va avoir besoin, un hautbois, un chanaï, etc., et donc il va avoir besoin d'utiliser le souffle continu, on commence à le faire travailler en soufflant une paille dans un bol d'eau. Et il doit continuer, tout en inspirant par le nez, à continuer à faire des bulles dans le bol d'eau. Donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on utilise les joues comme réservoir d'air, alors qu'en principe, on gonfle pas les joues. Dans cette conformation-là, on utilise les joues comme réservoir d'air, comme une cornemuse. Et quand on inspire, l'air qui est dans les joues est pressé par les muscles des joues et continue le son à l'intérieur, permet de continuer la production du son dans l'instrument, pendant que très rapidement par le nez, on inspire pour remplir les poumons. C'est faisable parce qu'en fait, la glotte et l'arrière-gorge bloque le système aérien, donc on garde la pression dans la cavité buccale qui permet très rapidement, la prise d'air est très rapide, de maintenir le flux d'air, la pression dans l'instrument pour continuer le son, et ensuite on repasse en respiration normale. Dès qu'on arrive presque en fin de respiration, on fait une réserve d'air, et quand la réserve d'air est pleine, en fait, automatiquement, le bloc de l'alouette bloque l'air qui permet la circulation de l'air par le nez, par les poumons, pendant qu'on continue la pression dans l'instrument grâce aux joues.
Alors la difficulté, c'est qu'on ne sente pas la rupture.
Ça se travaille, hein. Ça se travaille
oui,
très
oui,
bien.
Bien sûr.
Ouais, ouais. C'est plus facile. La souffle continue est plus facile dans les notes graves, parce qu'il n'y a pas beaucoup de la pression est moins grande dans l'instrument que quand elle est pour la clarinette, par exemple. Alors que pour le saxophone, c'est un petit peu différent parce qu'on perd beaucoup d'air, parce que c'est un cône, et donc on a une déperdition aérienne plus importante. Il y a des instruments qui sont plus compliqués, comme la flûte traversière. Le souffle continu à flûte traversière, c'est du même ordre, mais c'est un petit peu plus compliqué. La trompette, c'est du même ordre, ça marche très bien.
C'est plus facile presque.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est les lèvres produisant le son, donc elles sont toutes en amont, et donc ça permet, c'est plus pratique pour un cuivre. C'est plus pratique. Pour le cuivre, c'est très très bien.
Et c'est marrant parce que moi, j'ai joué un peu de trompette dans ma jeunesse et je le faisais assez facilement et beaucoup moins facilement sur le saxophone. Et bizarrement, peu de trompettistes le faisaient, hormis Art Farmer.
Il y en a beaucoup. Hein, Freddie Hubbard le fait. Il y a beaucoup de trompettistes qui l'utilisent presque tout le temps. D'ailleurs, ça devient très embêtant parce que si c'est intéressant pour une certaine forme d'expression, la respiration est musicale. L'absence de respiration est aussi musicale, mais ça. Ça bloque la respiration de l'auditoire.
Oui. Bah ça, justement, au concert de Roland Kirk, je voyais les gens, ils étaient un peu en apnée.
Oui, ça, cette particularité. En musique contemporaine, on l'utilise. Je m'étais amusé à faire travailler ça à un élève à la Clarbrass. C'était la sonate pour violoncelle de Bach, la première. Il y a pas de moment de respiration en fait, hein, puisqu'en principe c'est le violoncelle, donc la respiration elle est continue puisque c'est l'archet qui joue, donc il y a pas de souci. Pour un clarinettiste basse, qu'il fait, c'est très intéressant parce qu'on peut le faire en souffle continu et donc on donne vraiment l'impression du violoncelle. Par contre, en concert, c'est très impressionnant parce que on n'a pas l'habitude de voir un instrument avant de le faire. Ça coupe la respiration. Intéressant à travailler. Des fois, on nous le demande. Des fois, ça arrive qu'on le demande dans certaines... Mais il y a une période où c'était très demandé, puis maintenant, c'est bon. Mais par contre, ça peut sauver la mise dans des situations où on ne vous le demande pas. Mais qui permet de reprendre sa respiration parce que le compositeur a pourvu qu'il y avait une phrase d'une longueur pas possible, et donc là ça peut être utile.
Et ça va, c'est pas trop fatigant quand même?
Pas du tout.
Non.
Non, pas du tout. Non, puisque le système aérien il change pas. Hein.
Ça doit un peu crisper.
C'est surtout les joues qu'il faut travailler, ouais. et l'embouchure, hein, pour qu'elle soit bien autonome par rapport au mouvement des joues.
Alors on va écouter un troisième thème de cet album. Donc je rappelle, Live at the Village Gate en 1963, quelques jours après l'assassinat de John Kennedy. Un thème qui s'appelle Laura. Hein, donc de David Raskin et j'oublie.
D'abord, oui, c'est un film.
Et oui, c'est un film. Il y a même une version française avec des paroles assez. C'est Laura Doux Visage.
Ah oui, ça je la connais pas.
Ah si,
contre.
Si.
Ah ouais. Par contre, je connais une version, je sais pas si c'est une des premières, avec Jeremy Ligan.
Oh, il y a plein de versions.
Oui, mais qui est vraiment très très belle.
Quoi. Version sublime, Dark Pepper.
Ouais. Ouais. Bon, je ne parle pas de la version de Charlie Parker qui, s'il lui a donné l'occasion de faire un solo qui, tout le monde reste baba, n'est absolument pas du tout en accord avec la grille. Mais c'est pas grave, c'est autre chose. Mais c'est,
okay, voilà. En plus, il y a aussi la version de Parker avec les cordes,
ouais,
qu'il voulait absolument en public. Bon, c'est, mais ça, je l'avais passé il y a fort longtemps. Donc on écoute Laura. C'est parti, Franck. Thank you.
Thank you.